Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Comme à l'accoutumée, donc démarrons cette chronique, la numéro 26, par notre minute remue-ménage. Le temps d'évoquer quelques-uns de nos contemporains qui ont fait de la marche un véritable sacerdoce. Aujourd'hui, Sylvain Tesson, écrivain et voyageur français connu pour ses réflexions sur la nature et l'expérience humaine. Dans ses œuvres, il aborde souvent le thème de la marche qui est pour lui une quête de sens et de connexion avec le monde. On évoquera son essai de 2011 qui fut couronné par le prix Médicis dans les forêts de Sibérie. Cette célèbre marche en Sibérie, par exemple, est à la fois une aventure physique et une exploration intérieure. Sa plume poétique et ses observations profondes sur la solitude, la beauté des paysages et le temps qui passe font de ses récits une invitation à ralentir et à apprécier la simplicité de la vie. Dans cette dernière création, Sylvain Tesson nous amène des hauteurs de Cap Canaille à l'estran du Mont-Saint-Michel. Le titre, Le monde émerveille, en un seul mot, Le mont des merveilles. C'est donc son dernier essai qui explore les thèmes de la beauté de la nature et de l'émerveillement face au paysage. Dans cet ouvrage, Tesson partage son admiration pour les montagnes, sa quête de solitude et les réflexions qui en découlent. Est-il, comme certains le soulignent, un explorateur, un néo-explorateur qui recycle des poncifs? Un aventurier qui profite de la situation avec une coloration très réactionnaire? À vous de juger. Toujours est-il qu'il met en avant l'importance de la nature et des espaces sauvages et comment ces derniers peuvent inspirer et apaiser l'esprit. À travers ces mots, il invite le lecteur à remplir leur vie de moments d'émerveillement, à observer la beauté qui les entoure et à redécouvrir le plaisir des simples plaisirs, justement. Ce livre, comme beaucoup de ses autres travaux, reflète sa passion pour l'aventure, la marche et la contemplation.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Bien, nous allons aujourd'hui mettre un terme à notre anthropologie de la marche en explorant le lien qui relie la marche et la santé physique et mentale. Dans nos chroniques précédentes, j'ai souvent évoqué tous les bienfaits de la marche, de la randonnée, notamment chez les seniors. L'anthropologie, elle, met d'abord en avant la marche comme pratique culturelle et sociale. En effet, dans de nombreux contextes culturels, la marche revêt une dimension sociale. Les randonnées collectives, les marches de protestation ou les promenades familiales renforcent les liens communautaires et favorisent l'engagement social. Ensuite, bien sûr, la marche est une activité physique, quand elle est régulière, qui contribue à la santé cardiovasculaire, à la gestion du poids et à l'amélioration de la condition physique générale. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande la marche comme une forme d'exercice accessible à tous. Mais la marche peut aussi jouer un rôle sur la prévention des maladies. Des études montrent que la marche peut réduire le risque de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension et certaines formes de cancer, renforçant l'importance de l'intégrer dans le quotidien. Donc, santé physique, mais également santé mentale et émotionnelle. Il est prouvé que la marche réduit le stress. Marcher, notamment dans des environnements naturels comme des forêts ou des parcs, a démontré des effets bénéfiques sur la réduction du stress, sur les symptômes d'anxiété et de dépression. Le contact avec la nature, l'air frais et le mouvement physique agissent en synergie pour améliorer l'humeur. Enfin, la marche peut se transformer en pratique méditative. Elle permet de libérer l'esprit, de clarifier les pensées et de favoriser la pleine conscience. Des pratiques comme la marche consciente encouragent à être présent dans le moment, renforçant le lien entre corps et esprit. À noter aussi qu'en ville, les politiques urbaines qui encouragent la marche, comme la création de trottoirs, de pistes cyclables et d'espaces publics agréables, améliorent non seulement la santé des populations, mais favorisent aussi un mode de vie actif. Et cela s'entend évidemment avec une bonne accessibilité pour tous les groupes, y compris les personnes ayant des mobilités réduites. Il est crucial de garantir que la marche soit une option viable pour tous, rendant la santé physique et mentale accessible. C'est dans l'air du temps, et l'on peut souligner l'utilisation croissante également d'appareils de suivi et d'applications qui mesurent l'activité physique et incitent de nombreuses personnes à marcher davantage. Cela peut contribuer à une conscience de la santé personnelle et à des objectifs d'activité physique. En corollaire, les plateformes de santé et de fitness jouent également un rôle en permettant aux utilisateurs de partager leurs expériences de marche, créant des communautés de soutien qui encouragent l'engagement dans des comportements sains. Par ailleurs, la marche peut également être un moyen de gérer l'isolement social. Pour certaines personnes, marcher seul devient une manière de réfléchir, de faire face aux défis de la vie ou de trouver un espace de calme loin du tumulte quotidien. En conclusion, l'anthropologie moderne de la marche reflète que cette pratique revêt donc une importance cruciale tant sur le plan physique que mental. Les dynamiques culturelles contemporaines, couplées à une prise de conscience croissante des bienfaits de la marche pour la santé, encouragent une intégration de cette activité dans la vie quotidienne. En favorisant des environnements propices à la marche et en reconnaissant son potentiel de transformation personnelle, nous pouvons promouvoir un mode de vie plus sain et plus équilibré.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ».
Passons directement à une pause musicale avec une chanson très ancienne et très particulière, interprétée par Michel Simon, acteur emblématique du cinéma français, et Serge Gainsbourg, qui, avec talent, ajoute une touche unique à la musique. Dans cette version de L'herbe tendre, on trouve un accent mis sur l'émotionnel et le poétique dans une chanson à la fois tendre et nostalgique. Une entrée en matière parfaite pour la deuxième partie de l'émission.
D'avoir vécu le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre. Quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. C'est pourtant vrai.
C'est vrai, c'est vrai.
Radio FM+, Robert Amalric, Je marche donc je suis, deuxième partie. Aujourd'hui, j'accueille dans cette émission une nouvelle fois Yolande Gounel.
Bonjour.
Bonjour Yolande, je crois que mon intuition me dit qu'on va se mettre au vert.
Tout à fait, oui. Oui, on va se mettre au vert et pour une raison très simple, c'est que quand on a commencé cette série d'émissions et qu'on a commencé à parler de cailloux, tu avais remarqué que les randonneurs, d'une façon générale, et peut-être toi en particulier, je ne sais pas, râlaient beaucoup contre les cailloux qui roulent sous les pieds.
C'est exact. C'est pas toujours agréable, surtout si toute la randonnée n'est faite que de chemins caillouteux.
Alors justement, je vais t'offrir ce matin des espaces herbacés, confortables, où l'herbe fait un tapis sous nos pieds. Mais je vais apporter quelques correctifs, parce qu'il faut quand même être prudent. L'herbe, c'est composé de silice, comme les orties. Et les orties, ça pique.
Exact.
Bon, alors,
C'est irritant, disons.
Voilà, c'est très irritant. Alors, les orties sont... Enfin, l'ortie, c'est une herbe, mais on va parler quand même de l'autre herbe, celle qu'on connaît bien, celle qui est celle sur laquelle on marche. Parce que l'ortie, elle est comme... C'est une herbe, donc elle a de la silice, mais elle met sa silice dans des petites boules. Elle te gratte et puis là, elle dépose un venin qui va irriter.
Qui va irriter, exactement.
Alors que l'herbe, non, elle ne fait pas ça. Seulement si on prend le bout de l'herbe et puis qu'on le passe sur le doigt...
Ça peut être taillant, ça peut effectivement blesser.
Voilà. Et puis l'herbe, c'est sympa aussi comme nourriture. Par exemple, pour les animaux, on oppose les animaux herbivores, gentils, doux, etc., aux méchants carnivores. C'est un peu l'image qu'on en a.
Oui, exact. Bien que parfois, on aimerait bien que les carnivores mettent un peu d'ordre, notamment quand il y a trop de sangliers.
Alors, celle-là, je ne l'avais pas mis comme avantage, mais on va le rajouter. Et effectivement, les carnivores régulent la trop grande présence d'herbivores qui broutent tout. S'il n'y avait pas de carnivores, il n'y aurait plus de plantes sur Terre. Et puis, il y a aussi quelque chose auquel on ne pense pas, c'est que cette véritable course aux armements entre les herbivores et les carnivores, c'est le moteur de l'évolution. Par exemple, s'il n'y avait pas de carnivores, on n'aurait pas des yeux. Parce que les yeux, ça a été fait pour qu'on puisse voir...
Surveiller
et
appréhender les dangers éventuels.
Oui, et puis pour le carnivore, voir la proie. Alors, c'est grâce au grand méchant loup qu'on a des yeux. Donc, voilà les avantages de... Mais enfin, ça, c'était une parenthèse. Et puis, une autre idée reçue sur les herbivores. Alors donc, quand on parle des animaux qui ne mangent pas leurs semblables, on parle de herbivores. C'est tout à fait faux parce que si les animaux qui ne mangent pas de viande avaient dû se contenter de manger de l'herbe, ils n'en seraient pas restés beaucoup. Parce que des animaux qui vivaient avant l'herbe, il y en a beaucoup. Alors, avant les dinosaures, il n'y avait pas d'herbe. Donc, il vaut mieux parler de végétivores plutôt que de herbivores.
Voilà, qui consomment à la fois des plantes à ras du sol et parfois plus hautes.
Voilà, de toutes sortes de végétaux. Parce que l'herbe, elle arrive, on va voir quand, mais je voudrais faire une petite parenthèse, que c'est avec l'homme que l'herbe est devenue complètement dominante, car elle a domestiqué l'homme. C'est l'herbe qui a domestiqué l'homme.
Enfin, au départ, l'homme, quand même, a dû domestiquer les graminées, je suppose, quand même.
Eh bien, pas tout à fait. En fait, peut-être au départ, je ne sais pas, mais regardez les prairies, les cultures de blé, de riz, de céréales, exploitées par les hommes, sur des forêts d'ailleurs défrichées. S'il y a bien une espèce maîtresse de la terre qui a asservi l'homme, c'est bien l'herbe. Qui est-ce qui bosse pour faire pousser l'herbe, le blé, le maïs? C'est l'homme. L'herbe, elle ne fait pas grand-chose.
Mais, on dit que théoriquement, toutes les graminées sont des herbes et toutes les herbes ne sont pas des graminées. Donc, les graminées ont un statut quand même particulier puisqu'on les utilise beaucoup plus en consommation directe, dirons-nous.
Alors, les graminées, moi, je parle effectivement plutôt des cultures, comment dirais-je, moi, qu'on appelle domestiques. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'herbe, finalement, elle, on l'accueille, on cueille le blé, on cueille ceci, on cueille toutes ces herbes, mais elle s'en fiche parce qu'elle repousse. Elle repousse toujours par le pied. Donc, son but, c'est de s'étendre. Et quand on regarde, il suffit de regarder un globe terrestre et puis de regarder un peu ce qui s'y passe. Ben, vous voyez des prairies de blé, vous voyez des prairies de maïs, de sorgho, etc. Et l'herbe utilise le travail de l'homme pour se développer de plus en plus. Parce qu'au départ, il n'y en avait pas tant.
Je ferai toujours un distinguo entre herbe et graminées, parce que les graminées sont des cultures annuelles, c'est-à-dire qu'on est obligé, oui, une fois qu'elles sont cueillies, de les replanter pour à nouveau qu'elles produisent encore des grains. Ce n'est pas le cas de l'herbe, c'est pour ça que les prairies, les fameuses prairies, mais ça c'est pour les animaux, et notamment les bovins qui paissent dans les prairies, qui elles se renouvellent pendant... un certain temps, après de temps en temps, il faut quand même venir renouveler cette herbe qui aurait tendance à s'appauvrir.
Exact. Alors, le blé, les cultures effectivement qu'on coupe, qui sont annuelles, elles profitent parce qu'on en garde une partie pour se nourrir et puis on ressème. Et la tendance, elle est plutôt à l'agrandissement des parcelles qu'à la limitation des parcelles. Alors, bon, alors on reviendra un peu sur la philosophie, sur le débat philosophique par rapport à l'herbe, mais on va revenir un peu plus technique, c'est-à-dire, bon, l'herbe est apparue pendant le Crétacé, donc globalement 30 millions d'années avant la disparition des dinosaures. Alors, c'est là qu'on voit que les dinosaures ont mangé autre chose, voilà, que de l'herbe. Et alors, ben comment on le sait qu'elle est apparue il y a 30 millions d'années avant la disparition des dinosaures? Eh bien, tout simplement parce qu'on étudie les restes d'herbes dans les coprolithes. Alors, les coprolithes...
ce sont les déjections, en fait.
Voilà, ce sont les crottes fossilisées des dinosaures, mais ça fait quand même plus sérieux de parler de coprolithes que de parler de déjections. Et alors, donc, on voit que dedans, ben, y a de la silice. Et donc, la silice,
c'est l'herbe. Est amenée par l'herbe qui était consommée.
Voilà. Et bon, après l'extinction des dinosaures, donc l'herbe va commencer à se diversifier. Au départ, elle est dans l'ombre des forêts tropicales. Et puis, elle va s'adapter à des milieux plus ouverts et plus frais. Parce qu'il va y avoir, donc un climat plus sec, mmh, et plus frais. Donc, l'herbe va en profiter et surtout, alors, il va y avoir une grande révolution dans le milieu de l'herbe. À la même époque, hein, entre le Miocène et le Pliocène, c'est-à-dire entre 20 et 5 millions d'années, il y a des herbes qui développent une nouvelle forme de photosynthèse dite C4. Alors, la photosynthèse dite C4, c'est quoi? Comme ça, a priori, ça...
Ça ne dit pas grand-chose, ces dit... quatre, mais,
non,
ces quatre, mais tu vas nous dire
voilà,
exactement ce qu'il y a derrière ce C4.
Ça, voilà, alors, les plantes habituelles, ce sont des C3. Bon, et alors, les C3, ben, elles respirent comme nous, comme tout être vivant. Et alors, la plante, elle se nourrit de gaz carbonique, et avec ce gaz carbonique, elle fait du sucre. Et chez la plupart des plantes, ben, l'enzyme principale, on va pas être trop technique, hein, mais enfin, on va expliquer comme ça. L'enzyme principale de la photosynthèse, qui s'appelle la rubisco, elle a un défaut. Elle fixe aussi bien l'oxygène que le CO2.
Que le gaz carbonique.
Voilà. Or, quand il fait chaud, la plante, ben, elle ferme ses pores, mm-hmm, pour ne pas perdre son eau. Et alors, ben, l'oxygène qui est dedans, ben, il pollue.
À ce moment-là, oui, enfin, il est consommé, donc il n'est plus rejeté dans l'atmosphère.
Elle doit le brûler parce qu'il gêne, il ne sert à rien. Donc,
À ce moment-là, elle ne produit plus d'oxygène puisqu'elle le consomme.
Voilà, alors c'est une perte d'énergie massive parce qu'elle va brûler cet oxygène au lieu de faire la fixation du carbone. Alors, Les plantes C4 qui vont arriver, donc c'est une évolution, hein, elles vont résoudre ce problème en séparant la capture du CO2 et la transformation en sucre. Elles vont utiliser le carbone qu'elles piègent, et là, j'insiste là-dessus parce que C3, c'est 3 carbones, C4, c'est 4 carbones tout simplement. Donc on a une molécule à 4 carbones, d'où le nom. Alors, je vous raconte tout ça, mais en fait, ça ne sert pas à grand-chose pour notre herbe sur laquelle on marche.
Parce que... ça sert pour les nouveaux formes de gazon ou comme ça, parce que de plus en plus, ils essaient de sortir du C4 de façon à ce qu'il soit moins... qui nécessite moins d'eau que ce que nécessitent les gazons normaux.
Exactement. Et on a commencé en fait par le riz, ouais. Parce que le riz, c'est quand même plus utile que le gazon pour nourrir l'humanité. Et le gazon, c'est une plante C3 qui n'a pas cette molécule supplémentaire. Et donc, on essaye de lui donner les caractéristiques du C4 parce que, il faut savoir que la majorité des plantes, au moins sous nos latitudes, et même en général, est restée C3 parce que c'est un gros investissement d'avoir ces 4 molécules de carbone. Alors, pour les cultures effectivement comme le riz ou le gazon, mais qui est sujet au réchauffement climatique, donc on essaye, pauvres humains, de compenser finalement notre faiblesse intellectuelle par rapport à l'herbe qui, elle, est passée directement au C4, enfin, certaines parties. Voilà. Alors, donc, tout ça, c'est aussi une petite leçon de philosophie. Vous voyez que l'herbe, eh bien, elle n'a pas eu besoin d'ingénieurs pour se débrouiller toute seule.
Et oui, que s'il y a... pour évoluer... se muter, je dirais, à un niveau différent.
Voilà, et s'il n'y a pas de gazon C4, c'est peut-être parce qu'il n'y aurait dû pas y avoir besoin de gazon C4, mais voilà, c'est comme ça. Alors, les grandes prairies, eh bien, elles ont un impact aussi sur la faune, parce que il y a les chevaux, donc, qui au départ étaient des mammifères plutôt moyens, et les antilopes ont développé des dents plus longues parce que cette herbe, elle est très abrasive. Et je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle contient de la silice. Puis, vous digérez tout ça parce que l'herbe, je sais pas, moi, j'ai jamais essayé d'en manger.
Mais... Non, à part des épinards, on n'a pas tendance à manger de l'herbe directe.
Et donc, il faut que ça macère. Et alors, pour macérer, eh bien, il faut des gros estomacs. Et pourquoi les herbivores sont plus gros que les carnivores ? Eh bien, c'est pour ça. Et des fois, ils ont même plusieurs estomacs. Et alors, si vous vous faites courser par un gros taureau lors de votre randonnée, eh bien, vous voyez, c'est de la faute de l'herbe. Donc, je dis toujours, méfiez-vous.
Méfions-nous de l'herbe, effectivement. Et des taureaux également, bien sûr. Ils sont dans le même univers, d'ailleurs, bien souvent, n'est-ce
pas ? Tout à fait. Mais, alors, pour terminer, une petite morale quand même sympa, c'est qu'il n'y a pas que l'homme qui est tombé dans le panneau de la domestication. L'herbe utilise aussi les éléphants. Parce que les éléphants, on dit qu'il faut sauver les éléphants, c'est sympa les éléphants. Mais si vous aimez les arbres, les éléphants, ce n'est pas sympa. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les éléphants ? Ils cassent les arbres pour cueillir de l'herbe, pour pouvoir manger l'herbe.
Oui.
Il y a une complicité entre l'herbe et l'éléphant contre l'arbre. L'herbe, comme j'ai dit tout à l'heure, elle s'en fiche. L'éléphant broute, elle attend qu'il ait fini. En plus, elle reçoit quelques déjections qui peuvent
favoriser son développement.
Exactement. Et ça donne, donc, voilà, c'est une complicité objective entre l'éléphant et l'herbe. Et puis, on a parlé donc du gazon. Quand on regarde les habitants des lotissements avec leurs petites cisailles pour faire bien attention à leur herbe, bah, on peut dire qu'ils sont devenus esclaves de leur gazon, non ?
Oui, oui, oui. Mais ça va nous faire comme ça, on retourne sur la marche, n'est-ce pas ? Parce qu'ils courent derrière leur tondeuse. et ça leur fait de l'exercice. Et tout ceci nous ramène à la marche et à la randonnée de façon à se maintenir en forme, quels que soient les besoins et les utilisations. Voilà, donc nous allons... Merci Yolande, nous arrivons à la fin de cette chronique qui se termine. Donc pour retrouver cette émission, allez directement sur notre site www.radiofmplus.org. Vous pourrez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes d'ailleurs, soit en allant directement dans le programme samedi 10h, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique « Ici et maintenant ». Je vous propose de terminer l'émission avec une chanson que Yolande a choisie.
Qui s'appelle « Good Day » de Angels and Airwaves.
Merci, bye bye et à la semaine prochaine 10h.
No.